Bonjour. On va aborder là une continuation de ce thème sur la théorie de l'information de Shannon, mais vu ici d'un point de vue un peu plus applicatif pour aborder le problème de compression d'informations et compression de signaux. Donc là, on va vraiment regarder les problématiques de réduction de nombre de bits pour représenter des signaux de grande taille, que ce soit de l'audio, de l'image et potentiellement d'autres types de signaux, voire de la vidéo. Alors, ce qui est intéressant dans ce problème, c'est qu'en fait, il y a les deux aspects qui rentrent en jeu. D'un côté, l'aspect théorie de l'information, comment est-ce qu'on optimise le nombre de bits, en quoi c'est lié à la distribution de probabilité des données qu'on va représenter. Et de l'autre côté, la question de la représentation, c'est-à-dire que, comme on a vu dans toutes ces théories de l'information, que ce soit vu d'un point de vue Shannon ou du point de vue Fisher, il y a au départ, pour simplifier les choses, une hypothèse d'indépendance qu'on fait, qui fait que les probabilités, lorsqu'on prend le log, c'est la somme des logs, et puis il y a un phénomène de concentration qui arrive et qui permet d'obtenir la plupart des résultats. Ce qui se passe, c'est qu'en pratique, évidemment, quand vous avez des images, il y a énormément de redondance, il y a des zones régulières, il y a des contours, etc., il y a de la structure. Cette structure, elle est fondamentale ici aussi en audio, c'est notion de phonème, il y a un nombre limité de phonèmes, à l'intérieur des phonèmes, il y a de la structure quand on parle de paroles, musique, etc., ce qui fait qu'on n'est absolument pas dans une situation d'échantillon indépendant. Et donc là, la question qui va se poser, c'est comment représenter cette redondance, comment utiliser cette redondance de manière à minimiser le nombre de bits et donc, d'une certaine façon, de revenir à un problème qui est aussi proche que possible d'un problème où on a des échantillons indépendants. Donc, c'est tous ces aspects qui vont rentrer en compte dans cette problématique de compression de signaux ou d'informations. Et donc, historiquement, il y a un certain nombre de problèmes qui ont d'abord été envisagés. D'abord, ça a été la problématique de codage de la voix, autrement dit, de la parole. Et ça, c'est un problème qui est particulièrement intéressant parce qu'il est assez contraint. Il y a des modèles physiques. On peut faire des modèles de la production de la parole avec un flot d'air turbulent qui est émis par les poumons, qui ensuite passe par les cordes vocales et puis le résonateur de la gorge et de la bouche. Vous pouvez faire un modèle physique, en déduire un modèle paramétré, et puis essayer de faire du codage à partir de ces paramètres. Donc, d'une certaine manière, on est beaucoup plus dans une vision Fisher, c'est-à-dire construire des modèles et puis identifier les paramètres. Mais il y a un autre point de vue quand on regarde le problème. Donc ça, c'est une vision de modélisation. Et il y a un autre point de vue qu'on peut prendre, qui est un point de vue un peu plus général d'audio, consiste à essayer de capturer n'importe quel son. Et dans ce cas-là, on n'a plus du tout des modèles, dans la mesure où le son peut être produit par n'importe quel sident, quelque chose comme ça. Puis il y a tous les phénomènes de propagation qui rendent extraordinairement difficile la problématique de modélisation. Et du coup, on peut prendre un point de vue différent qui va essayer de consister à faire une représentation qui vont autant que possible essayer de décorréler, rendre les coefficients indépendants. Et ça, l'approche pour faire ça, c'est d'utiliser des représentations dans des bases et dans des bases orthogonales. Et là, on a vu apparaître la notion de compression par transformée orthogonale. Et c'est ça qu'on va beaucoup regarder dans ces deux derniers cours, par transformation orthogonale. Alors, ce point de vue a l'avantage de fonctionner pour potentiellement n'importe quel type de signaux et en particulier aussi pour les images. Alors, pour les images, ça correspond typiquement au standard de compression d'image, standard de compression d'image JPEG ou JPEG 2000. Et ce qu'on va voir, c'est que ces standards, en fait, ils se distinguent essentiellement par le choix de la base orthogonale. Ici, JPEG, ça va consister à prendre une image et le représenter dans une base de cosinus.
Alors que JPEG 2000, ça va consister à le représenter dans une base d'ondelettes. Donc ça, c'est deux approches différentes qu'on verra notamment à la fin du premier cours, peut-être, ou surtout dans le dernier cours, le cours prochain. Donc là, vous allez voir l'interaction entre ces problèmes de codage et les problèmes de représentation. Alors, juste pour vous donner une idée un peu plus précise, si on prend le cas de la parole, pour la téléphonie, disons, donc une qualité qui est minimum de manière à pouvoir malgré tout reconnaître la voix et reconnaître ce que la personne dit, on va avoir un signal dont la transformée de Fourier va être compris typiquement entre 200, c'est-à-dire qu'on n'entend pas les très très basses fréquences, et 3400 Hz. Alors pourquoi 3400 Hz ? Non pas parce qu'on n'entend pas les fréquences au-dessus, mais c'est parce que ça permet de capturer les deux premières harmoniques. Et les deux premières harmoniques des sons que vous allez émettre, ça vous donne la structure qui permet de reconnaître toutes les structures voisées, E, I, O, etc. Donc c'est suffisant pour reconnaître les différents phonèmes. Donc si vous regardez typiquement, vous avez 4000 Hz, donc vous pouvez échantillonner ça avec 8000 échantillons par seconde, si vous appliquez le théorème de Nyquist, 8000 échantillons par seconde, si vous codez chacun de vos échantillons sur 8 bits, ça va vous faire 64 kilobits par seconde. Donc ça, c'est le débit qui serait nécessaire si on faisait un codage assez brutal de la parole en représentant cette parole par des échantillons et que chaque échantillon, on le code avec un certain nombre de bits, 8 bits, c'est-à-dire 256 niveaux. Alors 64 kilobits par seconde, c'est trop et surtout ça n'utilise pas toute la redondance des structures et donc de manière, ce qui coûte très cher comme vous le savez en téléphonie, c'est la bande passante, c'est ce que les opérateurs vont acheter et qui coûte extraordinairement cher. Donc évidemment ce qu'on va vouloir c'est réduire ça, typiquement au moins à 8 kilobits par seconde et en fait on arrive à des codes pour la voix sur IP qui sont plutôt de l'ordre de 2,5 kilobits par seconde. Et donc, pour ça, on utilise typiquement plutôt des modèles. Et des modèles, et typiquement le type de modèle, autant le décrire, ce sont à chaque instant, on prend la voix et on représente la voix en supposant que si on prend un instant suffisamment court, le résonateur, c'est-à-dire la gorge, est à peu près fixé, ne bouge pas trop. Donc on peut considérer qu'on va avoir localement quelque chose qui va être stationnaire. Et on représente ça par une excitation qui est convolée, filtrée avec un filtre qui va dépendre du temps, mais qui va être fixé sur, disons, de l'ordre de 1000 échantillons. Et ce qu'on va coder, c'est le type d'excitation et le type de filtre qui va être un filtre paramétré. Donc ça, c'est typiquement le type de code qu'on introduit pour la téléphonie. L'audio, qui est beaucoup plus, j'ai dit, qui est un cadre plus général où là, on va vouloir coder de la musique, etc. On va vouloir aller vers des signaux de beaucoup plus grande qualité, typiquement de la haute définition. Donc, par exemple, à l'époque, les disques compacts digitaux, quand ils sont sortis, qui ont défini les standards, ils allaient non pas jusqu'à 3400 Hz, mais de 0 à 20 000 Hz. Donc, le nombre de bits avec de l'information sur le côté, la bande passante, pardon, était de 44 kHz, exactement. Et puis ensuite, chaque échantillon est sont codés sur 8 bits, de manière à avoir une meilleure précision sur l'amplitude de chacun des échantillons. Donc si vous faites la multiplication des deux, je crois que ça vous donne quelque chose comme 720, 706 kilobits par seconde.
Et ensuite, le problème, c'est de comprimer ça. Typiquement, à nouveau, pour faire du streaming, de, par exemple, de musique sur Internet, etc. Et donc, comme je disais, là, on n'est pas du tout dans le cadre d'un modèle où on pourrait définir une famille d'excitations paramétrées et puis un filtre. Et là, on va utiliser une base orthogonale. Donc, je vais expliquer grosso modo comment on fait ce genre de choses. Et on peut arriver à des compressions qui vous restaurent de la quasi-haute fidélité avec de l'ordre de 100 kilobits par seconde. Donc, c'est-à-dire avec un facteur 8 au moins ou 10 de compression sans trop de problèmes. On peut descendre au-dessous, mais on commence à affecter la qualité du son. Le dernier cas, c'est l'image. Alors l'image, typiquement, on a des images, disons, de 512 jusqu'à 1000 ou 2000 pixels en hauteur et en largeur. Donc disons, si je prends 512 par 512, où je peux prendre 1000 par 1000, ce qui est plutôt plus proche de ce qu'on a maintenant. Ça vous fait donc 1 million de pixels. Et puis, chaque pixel, c'est-à-dire chaque point de l'image, va à nouveau être codé sur 8 bits. Donc, 0, c'est un point noir. 255, ça va être un point blanc. Et donc, le nombre bits qui vont être nécessaires, c'est 1 million fois 8 en bytes, c'est-à-dire ça c'est 1 byte, c'est 1 mégabyte. Alors, si vous regardez la taille des images que vous allez stocker, c'est typiquement beaucoup plus petit. Avec JPEG, on peut descendre, et je vous montrerai la prochaine fois des exemples, à 0,5 bits par pixel plutôt que 8 bits par pixel, donc typiquement des facteurs qui vont de 10 à 20 sans grosse dégradation. Et puis ensuite, à nouveau, on peut aller au-delà, mais vous verrez qu'il commence à y avoir des dégradations. Quand on passe de JPEG à JPEG 2000, on a des améliorations, surtout quand on va vers des forts taux de compression. Donc ça a été surtout utilisé pour des applications plus professionnelles où on voulait des gros débits, on a très peu de débits et on voulait de la qualité. Et on verra que dans le cas des ondelettes, on arrive à des taux de compression qui introduisent beaucoup moins d'artefacts. Voilà, donc ça, c'est à peu près le paysage d'un point de vue des applications. Alors si, il y a un dernier type de problème qui est important, c'est la vidéo. La vidéo, et il y a une composante qui est un peu différente. C'est, vous avez donc des images qui se succèdent comme ceci dans le temps. Et alors, la première idée pourrait être de se dire, OK, ben en fait, j'ai un cube tridimensionnel de données. Donc, essentiellement, c'est la même chose que je dessine. Très mal, là. C'est la même chose que le problème précédent, mais au lieu d'être en 1D, 2D, 3D, 2D, on est en 3D. En fait, oui, on peut le voir comme ça, mais c'est assez inefficace, parce qu'on n'utilise pas, en faisant ça, une source d'information a priori très importante. C'est le fait que vous allez typiquement avoir des images d'une scène où vous avez des structures qui bougent. Donc, on oublie complètement, quand on prend une approche tridimensionnelle, on oublie le fait que le temps et l'espace, ce n'est pas la même chose. Et donc, on perd beaucoup en termes de qualité. Donc, évidemment, très rapidement, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une très bonne idée. Et ça, ça a été le principe des algorithmes de codage MPEG. Donc, l'idée du codage de MPEG, c'est de dire, on va essayer d'abord de mesurer, de représenter la déformation d'une image à la suivante. Et la déformation d'une image à la suivante, ça consiste à mesurer les champs de vitesse, c'est-à-dire le mouvement des pixels d'une image à l'autre. Une fois que vous avez calculé ce champ de vitesse, qui typiquement va être assez régulier, parce que quand vous avez un objet rigide, eh bien, le champ de vitesse est assez régulier sur le support de l'objet, vous allez pouvoir coder le champ de vitesse. Alors, ce champ de vitesse, là, je ne vais pas rentrer en détail, mais on appelle ça aussi le flot optique. Et puis, une fois que vous avez ce champ de vitesse, vous pouvez donc, à partir d'une image, vous pouvez prédire l'image suivante, parce que vous avez une information sur les déplacements. Mais évidemment, vous allez commettre des erreurs. Donc, vous allez avoir une prédiction de l'image, et puis vous allez avoir l'image réelle, et vous allez faire la soustraction, et vous allez avoir une image d'erreur. Et c'est l'image d'erreur que vous allez coder. Donc, ce qu'on va coder, c'est ça. Et là, on va revenir sur le problème précédent. C'est-à-dire, vous aurez une image qu'il faudra coder. Donc, dans le cas de JPEG, de MPEG, ce qu'on fait, c'est qu'on code le champ de vitesse qui, en fait, ne représente pas énormément d'informations. À nouveau, si vous prenez une scène comme ici, la plupart des structures ne bougent pas. Éventuellement, si jamais j'avais une caméra sur moi, il y aurait un mouvement complètement global qui est défini par mon propre mouvement qui peut être codé avec relativement peu de paramètres. À partir de là, peu de choses bougent, plus vos têtes qui bougent éventuellement, les mouvements, etc., quelques mouvements. Donc le champ de vitesse va être codé par beaucoup moins de bits. Ce qui demande le plus de bits, c'est surtout de coder les erreurs, parce que les champs de vitesse vont avoir des erreurs et donc vous aurez des erreurs de prédiction. Et là, on va utiliser une de ces techniques, JPEG ou JPEG 2000, pour coder les erreurs. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est une branche très importante. Et le standard MPEG 4 que vous utilisez souvent, il y a différents standards, mais les principes sont à peu près les mêmes, est exactement basé là-dessus. Et c'est plutôt basé sur l'utilisation de bases de cosinus pour faire la compression elle-même. Donc voilà, ça c'est le paysage des applications de ces problématiques de codage. Ce que je vais faire maintenant, c'est revenir sur les principes pour attaquer ce problème, essayer de voir comment on construit un algorithme de compression, donc à la fois la partie théorie de l'information, et puis la partie un peu plus analyse harmonique, choix de la base et optimisation. Alors, il y a une chose qui est très différente par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on va avoir des valeurs qui éventuellement au début peuvent être des entiers, mais qu'on va représenter dans des bases en faisant des produits scalaires et on va avoir des réels. Et en réalité, quand on a mesuré les valeurs au départ, a priori, elles étaient réelles. Il n'y a aucune raison d'avoir des entiers. Donc on va d'abord avoir cette problématique de comment est-ce qu'on on passe d'un codage d'un réel qui, a priori, a un nombre représenté par un nombre infini d'informations, à un codage avec un nombre fini de bits. Donc pour poser cette problématique, il faut introduire la possibilité d'introduire une erreur, c'est-à-dire une distorsion. Et tout l'enjeu de toutes ces questions de codage, ça va être toujours de minimiser la distorsion à un nombre de bits fixé. Et ce problème, on va commencer par l'aborder sur une variable aléatoire. Et ça va notamment nous permettre de faire le pont entre notion d'entropie qu'on avait définie sur des alphabets finis et l'entropie différentielle qu'on a définie la dernière fois qui s'applique à des variables aléatoires pour voir le pont de l'une à l'autre. Donc l'idée est la suivante, vous avez une variable aléatoire qui a priori a, je vais supposer, une densité de probabilité P de X donc X peut prendre a priori n'importe quelle valeur réelle et je vais vouloir représenter cette variable aléatoire sur un nombre fini de bits. Donc la première chose que je vais faire, c'est faire une quantification qui va définir un alphabet fini. Cet alphabet fini, comment je le définis? En fait, je fais je définis un quantificateur et le quantificateur, il va consister à prendre l'axe réel et le décomposer en boîtes qui peuvent être de taille variable. Donc, chaque boîte a une borne, yk-1, yk. Et quand x tombe dans une boîte, je vais le représenter par une valeur centrale que j'appelle ici ak. Donc ça, c'est les valeurs centrales que je vais utiliser. Ça veut dire que je suis en train de définir cet opérateur non linéaire, q de x, qui va être égal à ak
si x appartient à la boîte yk moins 1, yk.
OK. Donc évidemment, si on fait ce genre de choses, on va introduire des erreurs sur les valeurs prises par la variable aléatoire x. Et donc on va définir la distorsion. Et les distorsions, on les définit toujours avec des erreurs quadratiques dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui, non pas parce que l'erreur quadratique est absolument fondamentale d'un point de vue perceptuel, et on verra en particulier que c'est très souvent pas une bonne norme, mais c'est un gros avantage, c'est de pouvoir faire des maths là-dessus. C'est pas une mauvaise mesure, et en même temps, on peut, à partir d'une erreur quadratique, obtenir des résultats d'optimisation, et donc ça nous donne une idée de comment construire des algorithmes qui sont quasi optimaux. Donc l'erreur quadratique ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder l'erreur entre x et sa valeur quantifiée au carré, comme ceci. Donc ici, si j'écris ce que ça veut dire que pour tout x, je vais approximer x par sa valeur quantifiée q de x carré, et je prends l'espérance par rapport à la densité de probabilité P de x. Et typiquement, ce qu'on a envie dans ce genre de problème, c'est de minimiser l'erreur. Et donc de comprendre comment choisir les boîtes, ici, de manière à avoir une erreur la plus petite possible. Donc ça, c'est la problématique de codage optimal. Alors, il y a une hypothèse qui permet de beaucoup simplifier ce problème. Et je vais commencer, notamment aujourd'hui, en utilisant cette hypothèse, et puis ensuite on verra ses limites. Donc l'hypothèse, elle consiste à dire que je vais supposer que les boîtes sont suffisamment petites pour que sur une boîte, je puisse approximer P de x par une constante. C'est-à-dire que je suppose que P de x, donc ça c'est l'hypothèse de quantification haute résolution, et donc, ça suppose que P de x est à peu près constant sur chaque boîte de quantification, yk moins 1, yk. Donc, évidemment, si vous avez ça, à ce moment-là, si vous regardez pk, qui est la probabilité que la valeur quantifiée soit égale à ak, qui est le symbole AK. Ça, c'est la probabilité pour que X soit dans l'intervalle YK moins 1, YK. Et comme P de X est à peu près constant, ça, je peux dire que c'est P de AK fois la largeur delta K. Ça, c'est en fait exactement ce que je voulais écrire. P de x dx sur yk moins 1 yk, et si je suppose que P de x est constant sur l'intervalle, eh bien ça va être la valeur centrale, P de ak fois delta k, où delta k c'est tout simplement la largeur de l'intervalle. D'accord? Alors il y a une première petite proposition qu'on avait montrée, c'est que sous hypothèse de quantification haute résolution, à ce moment-là, l'erreur, elle ne dépend que de la largeur des intervalles et peut s'écrire comme 1 douzième somme sur k des pk delta k carré sur 12. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? Eh bien, on calcule tout simplement cette intégrale qui est ici. Donc, je vais décomposer cette intégrale qui va être une somme des intégrales sur tous les cas. L'intégrale qui, a priori, va de moins l'infini à plus l'infini, je vais faire une somme sur chacune des boîtes. Alors, la première boîte, disons y0, je vais mettre moins l'infini. Et puis, la dernière, yk égale plus infini. D'accord ? Donc je peux l'écrire comme
la somme des yk-1 à yk, des x moins q de x, mais q de x, si je suis dans cette boîte, c'est ak, donc ça va être l'écart entre x et ak, fois p de x, excusez-moi, au carré, mais p de x, c'est p de ak fois delta k, donc je vais sortir fois p de ak fois delta k dx. Donc, cette quantité-là, je peux la sortir, et donc ce que je vais avoir, donc ça, je peux le sortir de l'intégrale et mettre là, p de ak delta k, et donc j'ai tout simplement l'intégrale de x moins ak au carré. Alors, comment minimiser cette erreur? Déjà, sous hypothèse de quantification haute résolution, comme j'ai supposé que la proba elle est constante, pas très étonnant, le ak, ça va être le point milieu. Donc ce qu'on va prendre, c'est ak, je peux l'écrire aussi ici, on va prendre ak qui est le point milieu, ensuite, on va intégrer x moins ak au carré. Ça va vous donner x moins ak au cube divisé par 3. Et puis ensuite, vous mettez ak, qui est le milieu de, AK, de yk moins 1, moins yk. Et donc, je vous laisse vous vérifier que ça va être la somme des p de ak, delta k. Et puis, cette intégrale, ça va me donner... Non, il y a un truc qui ne va pas là. P de x, excusez-moi, P de x est constant. Donc, mais quelle est sa valeur? Ce n'est pas P de ak fois delta k. La valeur de P de x, s'il est constant, c'est la valeur de P en ak. C'est P de ak, excusez-moi ici. Donc P de ak. Et ensuite, on intègre ceci. Donc ça va me donner x moins ak cube sur 3. Comme je prends ak, le point milieu, ça va me donner le delta k cube sur 12. Et puis ensuite, j'observe que P de AK fois delta K, c'est la probabilité de voir apparaître un atome, et je récupère cette formule. Il y a un seul 1 douzième, hein, P de delta K carré, parce qu'il y a un delta K qui va, du coup, se simplifier. OK, alors il y a un cas particulier dans tout ça, c'est le cas d'un quantificateur uniforme. Alors ça, c'est le cas important. Dans le cas d'un quantificateur uniforme, ça veut dire qu'on va prendre tous les delta k qui sont constants. Et dans ce cas-là, le delta k, il va sortir. On va avoir un delta k carré sur 12. Et on va avoir la somme des pk, mais la somme des pk, ça vaut 1. Donc, du coup, vous obtenez, dans le cas d'un quantificateur uniforme, une erreur qui est indépendante de la distribution de probabilité, à condition, évidemment, et je reviendrai là-dessus, d'être sous les hypothèses de quantification haute résolution. Voilà, donc ça me donne le lien entre, d'un côté, la distorsion, et de l'autre côté, la taille des boîtes, et enfin, la distribution de probabilité. Maintenant, on peut revenir sur le problème. Le problème, ça va être d'essayer de minimiser le nombre de bits en choisissant le bon quantificateur à partir sous hypothèse qu'on fixe. Donc on peut soit fixer l'erreur et minimiser le nombre de bits, soit fixer le nombre de bits et minimiser l'erreur. D'accord ? Imaginez qu'on fixe le nombre de bits et je veux maintenant choisir la distribution des intervalles de manière à minimiser l'erreur. Donc imaginez par exemple que j'ai une distribution un peu piquée comme ça. Voilà. Et donc à votre avis, vous avez des boîtes. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va y avoir des boîtes plus petites, plus grandes, ou est-ce qu'on mettrait les boîtes plus petites, ou est-ce qu'on mettrait les plus grandes? Personne n'a d'idée? Ouais. A priori, on se dit, festoche, facile, hein, on va mettre les boîtes les plus petites là, parce que là, vous avez une plus grande proba, donc vous allez, en moyenne,
réduire l'erreur. Et là, comme c'est un événement qui ne va pas arriver très souvent, eh bien, on va mettre des boîtes plus grandes. Moi, le problème que je vous ai donné, c'est que je fixe le nombre de bits et je veux minimiser l'erreur. Ça, ce n'est pas la solution optimale. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous avez donné cette réponse, en sous-jacent, vous vous êtes dit, ben, quand je dis je fixe le nombre de bits, je fixe le nombre de boîtes de quantification. Effectivement, si vous dites « je fixe le nombre de boîtes de quantification et sous cette hypothèse, je veux réduire l'erreur », alors ça fait du sens d'avoir des boîtes beaucoup plus petites là et puis des boîtes plus grandes là. Mais le nombre de boîtes de quantification, ça peut correspondre au nombre de bits si vous faites un codage très naïf et vous dites « le nombre de bits, c'est log base 2 de k ou l'entier juste plus grand que log base 2 de k ». Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. Le nombre de bits, a priori, si j'ai une distribution de probabilité PK, si j'optimise mon code, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'à un epsilon près, on peut atteindre l'entropie, c'est-à-dire log base 2 de KPK. Donc, fixer le nombre de bits, ce n'est pas fixer le nombre de boîtes de quantification. D'accord ? C'est dire j'ai une distribution de probabilité telle que ceci a été fixée, et ensuite, c'est en déduire les distributions des boîtes. Ce qu'on va voir, c'est que la solution optimale, ce n'est pas du tout celle-là, qui consiste à réduire le nombre, la taille des boîtes. Ça va être la solution qui consiste à avoir une quantification uniforme. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous pensez à votre distribution PK, PK, c'est quoi ? C'est la probabilité de tomber dans une boîte YK-1YK. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce genre de choses ? Ben en fait, indirectement, vous avez fait l'erreur d'avoir un codage très naïf qui consiste à dire que le nombre de bits, c'est log base 2 de PK. Indirectement, ce que vous êtes en train de faire, c'est accorder la distribution des PK pour que ceci soit un bon code. Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de vous assurer que la probabilité pour tomber sur chacun des intervalles, autrement dit, que les PK vont être une distribution uniforme. Et du coup, effectivement, vous allez avoir un codage entropique très inefficace. Mais si jamais vous ne faites pas ça et vous faites un codage, une quantification uniforme, du coup, vous allez récupérer une distribution où les probas sont beaucoup plus piquées ici. Mais si la probabilité est beaucoup plus piquée, vous allez pouvoir avoir une entropie plus faible. Donc en fait, c'est la manière, vaut mieux poser le problème en inverse, et c'est là où je vous ai aussi un peu induit en erreur, vaut mieux poser le problème en disant « je fixe l'erreur, mais... » et on minimise le nombre de bits, quoi. Les deux visions sont duales. Mais on voit qu'en fait, il y a un conflit entre les deux. Et pour résorber ce conflit, il n'y a qu'un moyen, c'est faire les calculs. Là, ce n'est pas du tout évident de savoir si quand j'augmente un peu la boîte, est-ce que je perds plus en entropie que je ne gagne en distorsion ou pas. Pour ça, il faut faire le calcul différentiel et il faut faire le calcul. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va essayer de regarder quelle est la solution optimale, et c'est là qu'on va retomber sur ce résultat classique qui fait le lien entre l'entropie différentielle et l'entropie. Donc, ça, c'est ce que... Je vais vous donner le théorème, qui est un joli théorème parce qu'il est à la fois surprenant et il assez basique, et en même temps, il simplifie incroyablement tous les algorithmes qui vont tomber derrière. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre P de X, donc c'est la distribution de proba de X. On a l'entropie différentielle qu'on a déjà définie. L'entropie différentielle associée à P, c'est l'intégrale de moins P de X, log de P de X, dx. Et puis, on va garder l'hypothèse de haute résolution.
Donc, sous hypothèse de quantification haute résolution, à ce moment-là, on peut définir l'entropie donc, de ma source qui est pk, log base 2 de pk, de q de x.
D'accord ? Et ce qu'on va avoir, c'est que cette entropie H, elle est toujours plus grande que l'entropie différentielle moins
1/2 de log base 2 de 12D,
où D, c'est la distorsion qui est là-bas. Et on a égalité
si et seulement si la quantification est uniforme. Autrement dit,
la quantification va bien, uniforme va bien minimiser ceci,
et dans ce cas-là, on va avoir H égale HD moins 1/2 de log base 2 de 12D,
mais ça, 12D, ça va être delta carré, et comme j'ai un 1/2 ici, le 1/2 va disparaître, ça va faire du moins log base 2 de delta, donc avec pas delta.
Et ça, ça me donne en particulier le lien entre l'entropie différentielle et l'entropie.
Alors, avant de donner la démonstration, le lien, si on revient sur la signification de l'entropie, vous vous souvenez qu'en fait, l'entropie différentielle, c'est ce qui vous donnait une mesure du volume de l'ensemble typique de votre distribution. Puisque ce qu'on avait vu, c'est que le volume, il était de l'ordre de 2 puissance moins n fois l'entropie différentielle. Maintenant, si vous prenez un point et que vous faites une quantification uniforme, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre autour une petite boîte ou une hyperboîte en dimension n, d'accord ? Et maintenant, vous pouvez compter le nombre de boîtes. Ben, le nombre de boîtes, ça va être le volume total divisé par le volume de la boîte, c'est-à-dire delta à la puissance n. Et ensuite, si on regarde l'entropie par élément, c'est-à-dire H, c'est parce que l'entropie de la source discrète, c'est nh, c'est le nombre d'éléments à l'intérieur de cet ensemble. Et donc le nombre d'éléments à l'intérieur de cet ensemble, ça va être n fois h moins n fois log base 2, ou si vous voulez, n log base 2 de delta à la puissance n. D'accord ? Ça, c'est la vision complètement intuitive, mais qui est la raison qui est derrière ce résultat, c'est-à-dire à nouveau le fait qu'on est tout simplement en train de prendre le volume de l'ensemble typique, que l'on divise par le volume de la boîte de quantification, et comme le volume de la boîte de quantification, et ensuite l'entropie, pour avoir le volume, il faut prendre le log, et on obtient cette formule. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il y a cette formule. Maintenant, on va la démontrer. Alors, je vous ai donné la raison comme ça, parce que quand on va faire la démonstration, mais la démonstration, ça fait partie de ces démonstrations qui sont un peu magiques, quand on passe par l'inégalité de Jensen. Donc, on ne voit pas grand-chose dans la démonstration. Donc, je vais vous la faire. Mais ce n'est pas, je trouve, avec la démonstration qu'on comprend d'où vient la formule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut calculer l'entropie H. D'accord ? Donc l'entropie H, c'est moins somme sur K des probabilités PK, log base 2 de PK. Mais on est dans le cas où on a une hypothèse de haute résolution. Donc PK, c'est P2AK fois delta K. Donc ça,
je peux l'écrire remplacer pk par p de ak fois delta k. Et donc, ce que je vais avoir, c'est moins somme sur k p de ak fois delta k fois pk. Mais pk, qu'est-ce que c'est? Pk, c'est l'intégrale, je vais mettre ici, de p de x dx. Excusez-moi, là, il y a un log. Donc, je vais mettre, j'ai le log, excusez-moi, base 2 de pk, qui est log base 2 de pak fois delta k. Et puis ensuite, il me reste le p de x, et le p de x, c'est l'intégrale de yk moins 1 à yk de p de x dx. D'accord ? Donc ça, c'est le pk que j'ai représenté comme l'intégrale de p de x dx. Et p de ak, je l'ai le pk ici, je l'ai approximé par p de ak fois delta k. OK ? Et ensuite, je dis, ah oui, mais très bien, mais comme je sais qu'à l'intérieur de cette intégrale, la probabilité est constante, le p de ak, je peux le remplacer par p de x. Ensuite, je prends le log. Le log du produit, c'est la somme des logs. Donc, ce qui va me rester ici, c'est moins somme sur k de log de p de ak, log base 2 de delta k. Et puis, le log base 2 de delta k, il va être multiplié par l'intégrale de k moins 1 à k de p de x dx, qui correspond à p de pk. Donc, je vais le remettre ici, pardon, le pk. Et puis ensuite, j'ai un moins somme sur k de l'intégrale de k, yk moins 1 à yk, log base 2 de p de x fois p de x. On en dit p de x, log base 2 de p de x. OK. Maintenant, on voit que la somme sur k de l'intégrale de yk moins 1 à yk, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc là, ici, je récupère l'entropie différentielle avec le signe moins. Donc ça, c'est fixé, je ne peux pas y toucher, ça ne dépend que ma distribution de proba. Le levier que j'ai pour faire de l'optimisation, c'est le choix des delta k, qui est ici. Les pk aussi, ils sont, les pk qui sont reliés aux delta k. La seule chose que je sais sur les pk, c'est que la somme des pk est égale à 1. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux minimiser cette quantité-là. Alors, dans la formule, je l'ai reliée à la distorsion. Pour la relier à la distorsion, c'est que la distorsion, c'est la somme des pk delta k carré. Alors, je vais faire apparaître le delta k carré en mettant un carré ici et un 1,5 ici. Et ensuite, dans tous ces problèmes, c'est toujours la même chose, c'est la formule de Jensen. Vous avez quoi ici? Une somme de log pondéré par pk. Autrement dit, ce que vous avez, c'est une moyenne de log. Et donc, on retombe toujours sur le même argument. Le log, et je vais prendre le moins, donc si je prends le moins log de x, c'est convexe. Donc si c'est convexe, si je prends une moyenne de log, la moyenne va être au-dessus, pardon, la valeur sur le point moyen, il va être au-dessous de la moyenne des logs. Donc autrement dit, on va avoir que h va être plus grand que si je remplace la moyenne des logs par le log de la moyenne. Donc je vais remettre, excusez-moi, le HD au départ, et puis je vais remplacer ça par le log de la moyenne, c'est-à-dire somme sur K, j'ai un 1,5 qui est ici, et pardon, le log de la moyenne, ça veut dire que je prends le log de la somme sur K des PK delta K carré. OK ? Et maintenant, la somme sur K des pk delta k carré, ce n'est autre, à un facteur 12 près, que la distorsion.
Et donc, on récupère le théorème qui est là-haut. D'accord ? Donc, vu comme ça, c'est un peu miraculeux. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir au pourquoi ce qui est en train de se passer. Mais ce qui n'est effectivement pas évident, c'est que vous avez deux phénomènes conflictuels quand on bouge la taille des boîtes. D'un côté, vous augmentez l'erreur, mais de l'autre côté, vous augmentez aussi l'entropie. Donc, si on fixe le nombre de bits, il y a un moment où on obtient l'optimum. Et l'optimum, ce que ça montre, c'est que l'optimum... Alors, excusez-moi, pourquoi ? Donc là, j'ai la première formule. Pourquoi est-ce que l'optimum, il est obtenu quand tous les delta k sont égaux ? Parce que la formule de Jensen, à nouveau, c'est une égalité si la moyenne des quantités que vous faites, chacune des quantités est constante. Donc si chacune des quantités est une constante, ça veut dire quoi dans ce cas-là ? Ça veut dire que tous les delta k sont une constante. Donc vous avez une égalité sur la formule de Jensen si tous les delta k sont égaux, et dans ce cas-là, puisque vous avez une égalité, vous la remontez et vous obtenez bien l'égalité qui est là-bas. OK ? Donc, qu'est-ce que ceci nous dit ? Ça nous dit, si je suppose que j'ai un codage entropique donc qui à epsilon près va m'atteindre l'entropie, eh bien, le lien entre le nombre de bits et la distorsion, il va être donné par la formule là-bas. C'est-à-dire je vais avoir R qui va être égal, si je fais une quantification uniforme, à HD moins 1,5 de log base 2 de 12D. Donc si j'inverse cette formule, je vais avoir que D, ça va être égal à 2 puissance moins R fois 2 puissance, excusez-moi, 2R. Attendez, je vais vous le faire en une étape parce que sinon je me plante sur les facteurs. Vous allez donc avoir 2 à la puissance R, disons 2R, ça va être 2 puissance 2HD, moins, donc j'ai mis le 2 là, et donc je vais avoir le 12D, donc 1 sur 12D. Fois. Donc on va avoir que D, ça va être 1 douzième de 2 puissance HD fois 2 puissance moins 2R. Et donc là, ce qu'on a, c'est la première formule qui nous donne l'évolution de la distorsion en fonction du nombre de bits. Et on a une décroissance exponentielle, c'est-à-dire que chaque fois que je rajoute un bit, je vais avoir une division de l'erreur par un facteur 4, parce que l'erreur, c'est une erreur quadratique. OK. Donc ça, c'est le résultat de base. C'est ce qui me permet de passer d'une variable aléatoire réelle à une variable aléatoire quantifiée, codée de façon optimale. Maintenant, les problèmes que je vous ai évoqués au départ, ils sont beaucoup plus compliqués, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'une variable aléatoire, mais il s'agit d'un signal de grande dimension qui a de la redondance, et cette redondance, on voudrait l'exploiter. Donc, une fois qu'on a résolu ce premier problème, ce qu'on a fait, on va attaquer le deuxième, qui consiste à essayer d'utiliser une représentation bien adaptée pour exploiter la redondance qu'il y a à l'intérieur de tous ces signaux. Et la technique la plus simple, ça consiste à utiliser une base orthonormale. Non seulement c'est la plus simple, mais elle est algorithmiquement efficace, donc c'est les standards qui ont été développés sur, comme je disais, des signaux qui ne sont pas suffisamment structurés pour avoir des modèles simples paramétrés. Donc, problème de représentation. On va dire, c'est ce qu'on appelle un
Là, on apporte le codage par transformée orthogonale.
Donc l'idée, c'est que je vais avoir une base.
Pour l'instant, je ne la spécifie pas. Et évidemment, l'enjeu ensuite, ça va être d'optimiser cette base.
Donc là, maintenant, je vais supposer que j'ai un x qui est un vecteur et de taille n. Donc, je vais prendre une base orthogonale dans Rn. J'ai pris grand N, oui, c'est ça.
Et je vais appeler ces vecteurs des GM. Donc, j'ai une base orthogonale, donc j'ai en dimension N,
M vecteurs. Et donc, j'ai un produit scalaire,
d'accord, je note le produit scalaire comme ceci, G de M avec G de M prime. Donc, le produit scalaire, c'est la somme des G de M. S'ils sont complexes, je mets un complexe conjugué. Et ça, en l'occurrence, si la base, elle, elle est orthonormale, ça va être 1 si M égale M prime, 0 sinon.
Du coup, si je prends... je vais garder la notation, je l'ai appelé Y pour ne pas le confondre avec la variable aléatoire X. Si je prends le vecteur Y, je peux le décomposer dans la base orthonormale, c'est-à-dire que Y, je vais pouvoir le représenter par une combinaison linéaire, mais comme la base elle est orthonormée, la combinaison linéaire elle est donnée par les produits scalaires du vecteur avec chacun des vecteurs de la base, fois Gm. Ok. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de coder chacune des valeurs y de n, qui, en fait, d'une certaine manière, consiste à coder y dans une base canonique de Dirac, eh ben, on va se donner le degré de liberté de choisir la base, auquel cas j'aurai toujours n coefficients à coder, mais ces coefficients, ça va être ces variables aléatoires. Donc, faites bien attention, ça, c'est une variable aléatoire. D'accord ? Parce que qu'est-ce que c'est que produit scalaire entre Y et G de M ? C'est une combinaison linéaire des valeurs de Y, qui chacune est une variable aléatoire, fois des scalaires, que sont les coefficients du vecteur GM dans la base. Donc, avec des grandes lettres dans tout le cours, j'indique des variables aléatoires. Les petites lettres, ça correspond à des scalaires. D'accord ? Donc, j'ai des combinaisons linéaires de variables aléatoires. Donc, ça, c'est une variable aléatoire. Je ne sais pas la valeur qu'elle va prendre et c'est elle que je vais vouloir coder. D'accord ? Donc, mon problème maintenant, c'est de coder les A de M. OK. Je vais supposer que les moyennes des A de M sont nulles. Si elles ne sont pas nulles, je les soustrais. Ça revient à dire que le récepteur et l'émetteur peuvent stocker chacun la moyenne, une fois pour toutes, et la soustraire au signal. Ce n'est pas une information qu'on va transmettre. Donc on peut toujours supposer qu'elle est nulle. Et puis, on va maintenant vouloir coder ça. Alors la première étape, ça va être de faire de la quantification. Alors, cette quantification, je vais l'appeler une quantification scalaire. Pourquoi scalaire ? Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais définir la variable à chapeau, qui est la variable quantifiée de chacun des AM. Mais j'aurais très bien pu considérer le vecteur A de tous les coefficients en grande dimension et essayer de faire une quantification en grande dimension en adaptant les formes des boîtes de quantification. Quand vous êtes en dimension 2, par exemple, vous pouvez très bien faire des boîtes de quantification avec des formes bizarres, comme ça. Qui peuvent être adaptés aux distributions de proba. Quand vous faites une quantification scalaire, ça veut dire qu'en fait, vous allez projeter sur des axes qui sont fixés et que sur chaque axe, vous faites, en plus, vous faites une quantification avec éventuellement des boîtes qui sont différentes. Donc, ça veut dire qu'en fait, les boîtes de quantification, ce sont des hyper-rectangles. C'est beaucoup plus simple parce que vous ne posez pas le problème de quantification en grande dimension, vous vous posez le problème de la quantification sur chacun des réels que sont les coefficients
projetée dans la base orthogonale. Donc, cette simplification, elle paraît brutale, mais en fait, ensuite, évidemment, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur de l'optimisation de la quantification en plus grande dimension, et en fait, ça n'apporte pas grand-chose. À chaque fois, on arrive à compenser le gain qui a été obtenu par une quantification adaptée en changeant la représentation. Donc, d'une certaine manière, l'approche qui est toujours valable maintenant qu'il y a des représentations qui sont beaucoup plus complexes que des réseaux de neurones, que des bases orthogonales, ça consiste à essayer de trouver la bonne représentation en fixant la quantification sous forme scalaire, c'est-à-dire coefficient après coefficient. Et notamment, ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est que jusqu'à il y a 3-4 ans, le problème était congelé, c'est-à-dire que je vais continuer à vous raconter, développer toute cette théorie de codage par transformé, chercher les meilleures bases orthogonales. Dans le cas du son de l'image, on a obtenu plus ou moins les bases orthogonales qui étaient optimales. Les gens ont essayé de les améliorer, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et ça a donné les standards de compression. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le problème recommence à bouger, parce qu'avec les réseaux de neurones, on arrive à obtenir des représentations qui arrivent à mieux comprimer les signaux. Alors, ce n'est pas monstrueux, les améliorations, mais elles sont notables. C'est-à-dire qu'on va bien au-delà de tout ce qu'on avait obtenu en jouant sur les bases orthogonales de façon, en essayant de les optimiser davantage que ce qu'on a obtenu sur les bases standards. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la représentation par transformée en base orthogonale peut éventuellement être remplacée par une représentation dans un réseau de neurones qui, à la sortie, va vous fournir un certain nombre d'indicateurs obtenus après la cascade de convolution non-linéarité, etc. Mais à la fin, vous allez toujours avoir cette problématique de quantification, et typiquement, on utilise toujours, y compris pour les réseaux de neurones, des quantifications qui sont des quantifications uniformes. Voilà, donc c'est une quantification scalaire qu'on va faire. Alors, du coup, on va obtenir une erreur. C'est quoi l'erreur ? L'erreur, ça va être, à partir de ces valeurs quantifiées, on va être capable de reconstruire une approximation de Y qui va être la somme sur M, non pas des A de M fois G de M, mais A de M chapeau fois G de M. D'accord ? Ça, c'est le signal que votre récepteur va être capable de reconstruire. Il ne va pas pouvoir reconstruire le signal original parce que vous avez transmis les valeurs quantifiées, mais celle-là. Et donc, la question, c'est quelle est l'erreur ? La distorsion, c'est la différence entre Y et Y approximé au carré. Mais qu'est-ce que c'est que Y moins approximé au carré ? C'est la norme d'un vecteur d'erreur. La norme d'un vecteur, je vais d'abord mettre l'espérance, la norme d'un vecteur au carré dans une base orthogonale, c'est égal à la somme de ses coefficients de décomposition au carré. D'accord ? Quand vous avez un vecteur, par exemple ici, y, vous avez que y au carré, c'est égal à la somme de ses produits scalaires au carré. Vous avez une conservation d'énergie dans une base orthogonale. Bon, ici, les coefficients, ça va être les produits scalaires, Y, moins les produits scalaires, Y quantifiés. Donc ça va être la somme sur M de la différence entre les A de M et les A de M quantifiés. OK ? L'espérance, vous pouvez la mettre à l'intérieur. Et vous pouvez donc l'écrire comme la somme des erreurs sur chacun des coefficients. Les erreurs sur chacun des coefficients, c'est quoi ? C'est en fait la distorsion dm introduite par le coefficient généré par le vecteur gm. Donc, on se retrouve sur le problème suivant. On a une distorsion totale qui est la somme des distorsions introduites par chacune des quantifications. Donc on a une distorsion totale D qui est la somme sur M des DM, où les DM sont les distorsions pour chacune des coefficients, et le nombre total de bits, R, eh bien, ça va être le nombre total de bits qui va être nécessaire pour coder chacune des valeurs quantifiées. Si j'appelle RM le nombre de bits pour coder à chapeau de M, eh bien ça va être la somme sur M, DRM. Et donc maintenant, on retombe sur le même type de problème d'optimisation que précédemment. Il va falloir minimiser le nombre de bits à distorsion des données, ou inversement, à nombre de bits fixé, minimiser la distorsion. Donc, on a ce qu'on appelle un problème d'allocation de bits, parce que, après tout, on pourrait mettre beaucoup plus de bits pour certaines directions que d'autres, par exemple des directions où les distributions de probabilité sont plus larges. Et puis, il faut ensuite tout optimiser, c'est-à-dire il faut optimiser donc, le code et la quantification. Et puis, à la fin, il faudra optimiser, quand on aura bien compris tout ça, le choix de la base, autrement dit la représentation. Donc ça, c'est le programme qui est devant nous, c'est de résoudre chacune de ces étapes pour obtenir un code qui est optimal. Alors, la première question, c'est de comprendre comment on va faire l'allocation de bits. Pour bien comprendre ce problème, il faut voir les variables qu'on a en main. On a simplifié le problème en disant qu'on faisait une quantification scalaire. Donc la seule chose qu'on doit comprendre, c'est le choix du nombre de bits. Et le choix du nombre de bits, comme on a eu déjà un théorème là-haut qui nous dit que la meilleure manière de quantifier, c'est de faire une quantification uniforme pour minimiser le nombre de bits, ben, ce qu'on sait, c'est que ça va être calculé avec une quantification uniforme. Et j'ai qu'un paramètre, c'est la valeur du delta. Donc la question, c'est est-ce que je vais quantifier plus précisément certaines directions que d'autres directions ? Donc introduire plus d'erreurs, plus dans certaines directions que d'autres. Donc quel est le choix des delta n ? L'objectif étant, disons, si on fixe la distorsion, de minimiser le nombre de bits. Donc ça, c'est un problème d'allocation optimale. Et une fois de plus, c'est la formule de Jensen qui va nous donner la réponse. Et une fois de plus, la réponse, c'est la plus simple. C'est-à-dire que le mieux à faire, c'est d'utiliser le même pas de quantification, c'est-à-dire introduire en moyenne la même erreur dans chacune des directions. Donc ça, c'est donné par ce théorème d'allocation optimale. Alors, évidemment, je suis toujours sous mes hypothèses de quantification haute résolution. Donc, je commence par ça. Pour une quantification haute résolution, et on va fixer D fixé. Alors, R, le nombre de bits est minimum. Si on fixe tous les pas, delta M, constant, et si on fixe tous les pas constants, à ce moment-là, ce que vous allez avoir ici, c'est que chacun des DM va être égal à delta carré sur 12. Donc ça va être égal à n delta carré sur 12. Donc si, du coup, delta, c'est 12d sur n. Delta carré, c'est 12d sur n. Donc chacun des delta m va être égal à 12d sur n. Et si je regarde, je vais définir r bar comme étant r sur n, le nombre de bits
par pixel, le nombre de bits par coefficient. Là, j'ai décomposé un vecteur qui avait n coefficients. Et dans ce cas-là, la distorsion d, en fonction du nombre de bits divisé par n, donc d de r bar, ça va être proportionnel à n, n sur 12, et on va avoir le même genre de formule que ce qu'on a eu précédemment, c'est 2 puissance 2 h bar d fois 2 puissance moins 2 r bar, avec h bar qui est défini comme l'entropie différentielle moyenne, c'est-à-dire 1 sur n, la somme des entropies différentielles de chacune des variables aléatoires. Donc ça, c'est quelque chose qui est fixé, si on a fixé la base. Ça, c'est les variables aléatoires réelles, c'est leur entropie différentielle. Et donc ce que ça dit, c'est que la quantification, si vous faites une quantification scalaire, le mieux, c'est de faire une quantification avec les mêmes pas. Et donc on se retrouve dans une géométrie où ce sont des petits cubes qu'on utilise en grande dimension, et la distorsion est tout simplement donnée par ça. Alors, je vais faire ici la démonstration. La démonstration, elle va consister tout simplement à calculer puisqu'on a fixé D, on va calculer le nombre de bits. Et on va calculer le nombre de bits en utilisant le théorème qui est sous ce tableau. Alors, ici, je suis dans le cas où le nombre de bits est défini par l'entropie. Donc, je fais un codage entropique. Donc, le nombre de bits RM pour chaque coefficient, il va être défini par l'entropie de la variable quantifiée. Et comme j'ai fait une quantification uniforme, l'entropie de la variable quantifiée, c'est l'entropie différentielle de la variable non quantifiée moins log base 2 du pas de quantification qui est ici delta m. Donc, c'est ce qu'on va additionner, et je ne vais pas l'écrire en delta m, parce que je l'ai plutôt explicité sous cette forme-là. Donc, c'était moins 1,5 de log base 2 de 12 dm. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la somme DRM. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Et puis, je prends R bar, donc c'est 1 sur N, la somme des RM. Donc là, je vais avoir un premier terme, ça va être 1 sur N, la somme des entropies différentielles. Et donc, c'est là qu'effectivement, je retrouve mon entropie différentielle moyenne, qui est le premier terme. Et puis, je vais avoir un deuxième terme, et c'est à nouveau là qu'on se retrouve, avec une somme sur M de 1,5, donc j'ai un 1,5 là, 1 sur N de log base 2 de 12 dm. Et donc, à nouveau, qu'est-ce que j'ai? J'ai une moyenne de log. Donc la moyenne de log, je vais voir avec l'inégalité du Jensen, elle va être plus petite que le log de la moyenne. Donc je vais avoir une inégalité, c'est que ceci va être toujours plus grand que h bar d moins 1,5 de 1,5
log base 2 de somme sur m, 1 sur n, 12 dm. D'accord ? Mais la somme sur m des dm, c'est grand D, et donc j'ai supérieur ou égal à h bar d moins 1 demi de log base 2 de 12 t sur n. Et quand est-ce que j'ai égalité ? Toujours la même histoire, l'inégalité de Jensen vous donne une égalité si les dm sont tous égaux. Mais comme les dm, c'est delta m carré sur 12, ça équivalent à dire que tous les delta m, tous les pas de quantification sont égaux. Et donc, on va bien minimiser le nombre de bits en choisissant des pas de quantification qui sont tous égaux. Et dans ce cas-là, si j'inverse cette formule, je vais obtenir celle-là. Le n sur 12 que vous avez ici, et puis ensuite vous passez le 2 de l'autre côté, et vous obtenez le 2 h bar d, comme ceci. Donc tout ça, c'est très joli, parce que ça nous permet de démontrer que finalement, la solution optimale, dans ce cadre-là, c'est la plus simple, c'est-à-dire tout simplement faire des boîtes qui découpent l'espace en grande dimension en petits hypercubes définis par la largeur delta, avec des axes qui correspondent aux axes de la base orthogonale. Évidemment, la dernière question, c'est comment choisir la base orthogonale. Et là, maintenant, quand vous regardez le problème, vous n'avez plus qu'une variable en main, tout ça c'est fixé, c'est le h bar d. Le h bar d, qu'est-ce que c'est ? C'est la moyenne des entropies différentielles. Les entropies différentielles, c'est les entropies des distributions de probabilité que je vais ici appeler PM de x de la variable aléatoire AM. Et qu'est-ce que vous espérez ? Ce que vous espérez, c'est que finalement, ces entropies, elles sont petites, ça veut dire que la distribution, elle est la plus piquée possible. D'accord ? Et en tout cas, elle va se resserrer autour de sa valeur moyenne. J'ai supposé ici que les AM étaient de moyenne nulle, donc ici, la valeur moyenne, c'est 0. Donc ce que j'espère, c'est que mes distributions de probabilité, elles sont les plus étroites possibles autour de 0. D'accord ? Ça veut dire que chacun de ces HD va être petit. Donc, la valeur h des barres va être la plus petite possible, cette constante va être petite. Okay ? Et donc, là, on sent qu'on va avoir une espèce de notion de parcimonie qui va commencer à apparaître, parce que dire qu'on a une distribution piquée autour de zéro, ça veut dire qu'on crée beaucoup de zéros, que la base orthogonale va créer beaucoup de zéros, et donc peu de grands coefficients, sachant que vous avez une conservation d'énergie. Si vous créez des zéros, forcément vous créez des grands coefficients, parce que la somme des coefficients au carré reste une constante dans une base orthogonale. Donc, ça va être l'étape d'après, choisir la base orthogonale. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le problème devient un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que quand on pousse ça, il y a une hypothèse qui va exploser dans notre théorème, c'est l'hypothèse de quantification et de résolution. Et tous les résultats, on va voir, vont être perturbés, et sérieusement perturbés par ça. Mais avant de passer à ça, je voudrais qu'on exploite ce résultat jusqu'au bout, parce que ça a été vraiment la base de toutes les idées de codage en traitement du signal, en tout cas jusque dans les années 90. Et donc, on va essayer d'utiliser ça pour optimiser la base. Alors, il y a un truc quand même sur lequel il faut faire un petit peu attention, c'est que ce qu'on a vu, c'est que les R, c'est la somme des RM, et les RM, ça va être l'entropie différentielle de A de M, c'est comme ça qu'on l'a construit, moins log base 2 de delta. Il y a juste une chose auquel il faut faire un petit peu attention,
c'est que ça peut être négatif. On a vu l'entropie différentielle, quand vous avez une distribution en particulier qui devient très piquée, elle peut devenir négative. Donc ça peut devenir négatif. Et ça ne marche pas, parce que RM, c'est un nombre de bits, c'est forcément positif. Donc ce théorème, il y a une hypothèse que je n'ai pas imposée. Je n'ai pas imposé l'hypothèse que RM était positif. Et je n'ai pas non plus imposé que RM était un entier, alors que le nombre de bits, ça doit être un entier. Donc il faut faire attention. Ça ne va être pas exactement vrai, parce qu'il va falloir toujours prendre l'entier. Et donc, si vous y allez brutalement, vous prenez l'entier qui est juste au-dessus. Mais ce qu'on peut éventuellement faire, c'est une allocation optimale. C'est-à-dire exactement comme on a vu le codage de Hoffman, qui était vraiment une optimisation du code qui tenait en compte le fait que les longueurs d'un mot binaire étaient un entier, et on a obtenu un algorithme greedy. De la même manière, ce théorème, qui est un théorème différentiel, on peut le remplacer par un algorithme d'allocation optimale, qui est en fait, il y a des algorithmes optimaux qui sont de la même manière des algorithmes gloutons, qui peuvent inclure la contrainte, le fait que le nombre de bits est entier, et positif, évidemment. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est intéressant, c'est comme si vous aviez un problème avec des petites boîtes. D'accord ? Vous avez n boîtes qui correspondent à vos différents RM. Et à chaque fois, vous avez un nouveau bit. Et vous devez allouer le bit à vos différentes boîtes. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous allouez le bit de manière à augmenter le moins possible à chaque fois la distorsion. Et vous faites ça au fur et à mesure d'un point de vue glouton. Comme vous avez un problème convexe, on peut démontrer que ce type d'algorithme qui va un par un, va vous donner la solution optimale. Maintenant, cette formule, ceci étant, si on suppose que ces hypothèses sont à peu près vraies, vous donne une bonne idée du comportement de la solution optimale, surtout quand n va être grand. Alors, il y a un autre point quand même sur lequel, avant de regarder la base, je voudrais insister, c'est un peu l'aspect perceptuel. C'est que cette norme-là, elle est un peu brutale. Pourquoi elle est un peu brutale? En particulier, si vous prenez par exemple du son ou des images, vous savez très bien que vous n'êtes pas sensible, disons, aux hautes fréquences au-delà de 20 000 Hz. D'accord? Donc, introduire une énorme erreur au-delà de 20 000 Hz, on s'en fout totalement du point de vue de la perception. De la même manière, introduire une grosse erreur sur les très basses fréquences, on ne va pas l'entendre. Pour l'image, c'est à peu près le même genre de phénomène, si vous introduisez, en tout cas aux hautes fréquences. Vous introduisez une erreur sur les très hautes fréquences, ce n'est pas très grave, et c'est pour ça qu'on a des images qui ont un nombre de pixels. Au bout d'un moment, augmenter le nombre de pixels, ça a plus grand intérêt si on fixe la distance à laquelle on regarde l'image, parce que de toute manière, la densité des cônes dans votre rétine n'est pas capable de percevoir des fréquences qui vont au-delà. Donc, ce que tout ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, la mesure de l'erreur, c'est un peu trop brutal de dire que c'est directement la normale 2. Cette normale 2, il faut la pondérer par rapport à une forme de sensibilité que le système a. Alors, le plus facile, c'est de définir des normes pondérées. C'est-à-dire, au lieu de dire que D, c'est la somme des DM, ça va être la somme des DM divisée par des poids. D'accord ? Moi, je les ai appelés WM. Et les poids, ça spécifie, en particulier, on va voir que les bases, ça va être souvent des bases de type fréquentiel. Donc, M, ça va être un espèce d'axe de fréquence. Pas exactement dans le cas des ondelettes. Et donc, pour les différents axes de fréquence, on va avoir une sensibilité qui est différente. Et donc, on va ajuster ce facteur de sensibilité. Et donc, la question, c'est si maintenant on optimise DW, comment est-ce que tous ces résultats se transforment? La manière de le voir, c'est que, en fait, ce que vous êtes d'une certaine manière en train de dire, c'est que ceci, on peut le réécrire
comme une somme de distorsion des, disons, où la distorsion dwm, donc c'est dm sur w, c'est-à-dire c'est l'erreur entre a2m et a2m quantifié
au carré, donc, mais divisé par wm. Et donc si je divise par wm, ça va, je vais le mettre au carré ici, parce que là j'ai un carré, ça va revenir à diviser chacune de ces variables par w. Donc une autre manière de le dire, c'est que l'erreur, c'est en fait l'erreur des coefficients pondérés par les wm. Donc une fois qu'on l'a écrit sous cette forme-là, on peut réappliquer le théorème précédent, parce que maintenant, je sais que mon erreur totale, c'est une somme des erreurs de distorsion. Donc, qu'est-ce qui va être optimal? Ce qui va être optimal, c'est de quantifier uniformément ces variables A sur W. Donc, on va faire une quantification uniforme de A de M sur WM, donc un pas delta. Donc ça, c'est pareil que quantifier A de M avec un pas delta M qui va être égal à delta fois WM. D'accord ? Et c'est pour ça que très souvent, en fait, les quantifications dans ces algorithmes, et notamment pour l'audio, sont pas du tout uniformes. Elles ne sont pas du tout uniformes, non pas parce que c'est la stratégie optimale d'allocation de bits par rapport à une distorsion L2, c'est au contraire parce qu'on est en train d'adapter la métrique et on est en train de définir des distorsions, on est en train de pondérer les distorsions et ça permet d'allouer plus d'erreurs dans certaines zones où la perception n'est pas aussi précise. Voilà, donc ça c'est une remarque pour le... la quantification. Et maintenant, on va passer au choix de la base. Au choix de la base, et on va revenir là-dessus. On va revenir sur ce problème parce que vous verrez que les problèmes de perception sont très, très intéressants dans ce cadre-là, parce qu'on peut aller bien au-delà de simplement une mesure de sensibilité moyenne. Il y a notamment, et je reviendrai là-dessus, ce qu'on appelle des phénomènes de masquage. Si jamais vous vous pincez très fort, ou si vous approchez une flamme, par exemple, de votre peau, ben vous allez voir que vous allez perdre votre sensibilité au bout d'un moment à la chaleur ou à une sensation de toucher. C'est-à-dire que quand on excite très fort un neurone, un nerf, il va avoir tendance de faire une compensation de gain de manière à ne pas shooter super fort en permanence, il va baisser sa sensibilité. La même chose va se passer pour l'audio et pour l'image. Sauf que pour l'image, c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'audio, c'est très clair. Si jamais vous entendez une sinusoïde à une certaine fréquence très, très fort, vous allez perdre votre sensibilité dans une bande de fréquences autour de la fréquence de la sinusoïde. Et donc, si vous perdez votre sensibilité, on peut l'utiliser en introduisant plus d'erreurs. Donc, ça veut dire que l'erreur ne va pas être, comme dans un modèle ici, indépendante du signal, mais l'erreur commence à devenir dépendante du signal, et c'est ce qu'on appelle les phénomènes de masquage. Donc, je vais revenir là-dessus, parce que c'est un très joli lien avec les problèmes de perception. Mais avant, pour bien poser ce problème, il faut que je définisse les bases orthogonales. Alors, les bases orthogonales qu'on va utiliser, c'est des bases qui vont être capables d'exploiter la redondance du signal. Donc, le premier modèle le plus simple, c'est qui va être valable en fait dans toutes nos applications pratiquement, sauf que sur l'audio de façon un petit peu différente, c'est de dire ok, je vais regarder un signal et je vais supposer qu'il est régulier par morceau. On va voir pourquoi on va pouvoir ensuite utiliser le même genre de base, mais on va commencer par là. Donc, vous avez un signal. Et puis,
je peux éventuellement avoir, on va même supposer qu'il est uniformément régulier, pour faire simple. Mais éventuellement, il y a des zones où il peut s'agiter un peu plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des intervalles, on va faire un codage qui est localisé ici en temps, et on veut exploiter le fait que le signal est très régulier. L'exploiter, c'est-à-dire trouver une base orthogonale dans laquelle l'entropie différentielle va être la plus petite possible. Et donc on veut produire le plus de zéro possible. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme idée pour représenter une fonction régulière comme ça sur un intervalle avec le moins de zéro possible ? Avec le plus de zéro possible. Quel genre de base ? Alors, à nouveau, je vous l'ai déjà dit, dans ce genre de questions, ce n'est pas compliqué. Vous en avez à peu près trois des bases. Hein. Il y a Dirac, Fourier, Ondelette, et puis ensuite, on se balade entre tout ça. Quand vous avez quelque chose d'uniformément régulier, dans le domaine de Fourier, ça veut dire quoi ? C'est timidité ou il n'y en a pas un qui... Quoi ? Donc, dans le domaine de Fourier, vous allez avoir des hautes fréquences qui sont zéro. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe aux hautes fréquences. Donc, un signal qui est régulier... Alors, on revient là-dessus. Vous avez un signal dans le temps qui est régulier... Je l'ai appelé x, sa transformée de Fourier, si je la regarde, x de oméga, elle va avoir une décroissance rapide, si je regarde le module notamment. Pourquoi ? Parce que la fréquence, ici, x chapeau de oméga, là je vous l'écris en continu, c'est la corrélation entre le signal et une sinusoïde de fréquence oméga. Et donc, si vous avez une sinusoïde qui oscille très très vite, eh bien, comme sur la période, le signal est très régulier, quasi constant, l'intégrale va valoir zéro. Donc, les seuls coefficients qui vont être grands, c'est pour les basses fréquences, c'est-à-dire les sinusoïdes qui vont être capables de récupérer vos grandes structures. Okay ? Les hautes fréquences vont être petites. Donc, comme tout ça, ça va être très petit, ça veut dire que oméga, ça va correspondre aux différents M, ces différents vecteurs de votre base. Vous allez avoir ici beaucoup de coefficients quasi nuls. OK. Donc, on peut se dire, très bien, on va prendre une base de Fourier. Simplement, ici, vous avez pris un signal qui était de taille N. Donc, mon signal, il est discrétisé. Donc, on pourrait... prendre une base de Fourier. Et c'est quoi une base de Fourier de taille M ? C'est les E, I, 2pi, c'est la base de Fourier discrète, N. Ça, pour tout K entre 0 et N, c'est une base orthogonale de Rn. Si je veux la rendre orthonormale, il faut que je la normalise et je mette un racine de N ici. D'accord ? Ça, c'est la base de Fourier d'un signal de taille n. Ça ne va pas marcher. Si je prends un signal comme ça et que je le décompose dans une base de Fourier, ce n'est pas vrai que je ne vais pas avoir de haute fréquence. Je dis, en fait, ça ne va pas si bien marcher que ça, je vais avoir des hautes fréquences. Pourquoi ? Vous avez une idée ? Oui ? Oui, d'une certaine manière, mais on va remplacer le mot stationnaire par périodique. En fait, ce qui se passe, c'est que mon signal, si je prends celui qui est là-bas, il ressemble à quelque chose comme ça. Mais regardez, ça, ce sont des vecteurs qui sont tous de période n. Donc, en fait, en sous-jacent, la base de Fourier, elle fait comme si le signal, il était de période n, donc qui se répétait comme ça. Donc, en apparence, il est très régulier, votre signal, sauf que vous avez introduit une très grosse discontinuité parce que le premier point et le dernier point n'ont pas la même valeur et que les sinusoïdes, elles sont périodiques et donc sur de période n et donc considèrent qu'en fait, c'est ça le signal. Et donc, vous allez coder et essentiellement dépenser tous vos bits pour coder la discontinuité.
Donc ce qu'il va falloir, c'est changer la base de Fourier, et on va voir la prochaine fois que pour faire ça, on passe des bases de Fourier aux bases de cosinus. Donc la prochaine fois, on va passer un petit peu de temps, la première partie, sur les constructions de base. Et vous allez voir que là, il y a des choses un peu subtiles qui rentrent en jeu parce que les bases directement, genre Fourier, ne fonctionnent pas. Ceci étant, c'est des problèmes qui ont été bien résolus et c'est maintenant des outils très standards qui sont importants de connaître. Et donc, vous avez les bases de cosinus, puis je reparlerai très brièvement des bases d'ondelettes. Mais ce sur quoi je finirai, c'est sur le fait que ce modèle, qui est très joli, en pratique, il ne fonctionne pas aussi bien que ça, parce qu'il y a des effets très non linéaires qui apparaissent quand on commence à arriver vers des taux de compression qui sont beaucoup plus importants. Et je vous expliquerai comment tout ça est lié à la notion de parcimonie et de compression non linéaire, et comment est-ce qu'on aborde ces sujets. Voilà. Alors, il va y avoir un bel exposé, là maintenant, dans 10 minutes, fait par Olivier Rioul, qui montrera un peu la vision de tous ces outils d'information pour des problèmes de fuite d'information et qui sont particulièrement importantes pour crypter les signaux, puisque ce qui nous montrera un peu, c'est que ces notions d'information, on n'est pas forcé de passer par l'information de Shannon. Il y a des façons un peu plus générales qui peuvent être plus adaptées à ces applications pour envisager ces problèmes d'information. Donc ça, ce sera le séminaire à 11h15, donc dans un peu plus de 10 minutes. Voilà, merci.